La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Un peu un récapitulatif des différents sujets que nous avons eu l'occasion de voir ensemble pendant cette période où j'ai été chef de référence pour l'antenne de la Mère Église. Alors si je vous parle de notre nom.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? On active les mémoires un peu. Si je vous parle de notre nom, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qu'on s'était dit au sujet de notre nom? Ça revient ou pas un petit peu? Allez, je ne vous torture pas, je vous mets sur la piste. C'est en 1860 que, à Battle Creek, au Michigan, après une réunion et de ferventes prières, que, inspiré par Dieu, notre nom, Adventiste du septième jour, nous a été donné, a été choisi. C'est un nom qui définit, qui nous définit et qui va préciser qui nous sommes et où nous allons. Alors, quand il va préciser qui nous sommes, tout simplement, septième jour, ça nous renvoie directement à la création. Et notre nom, Adventiste du septième jour, va préciser que nous sommes les créatures de Dieu, puisque ce sabbat, ce septième jour que nous observons, est le mémorial de la création. Il nous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous existons. L'univers que nous connaissons existe tel qu'il est par la puissance de la parole créatrice de Dieu. Donc ce septième jour de notre nom nous rappelle que nous sommes des créatures de Dieu. Et puis, où nous allons alors? Comment dans notre nom adventiste du septième jour nous pouvons repérer et savoir où nous allons? Est-ce que ça vous parle aussi, le « où nous allons » Oui? Effectivement, adventiste. Pour vous, ça veut dire quoi, adventiste? Quand on dit adventiste, qu'est-ce que ça vous évoque? Allez-y, ne me laissez pas toute seule. Oui, voilà, l'attente du retour de Dieu. Et donc, ce mot adventiste nous renseigne sur l'endroit où nous allons. Nous attendons le retour de Dieu parce que il a promis qu'il nous emmènera avec lui, qu'il nous prendra avec lui dans cet univers qu'il aura restauré, qu'il aura recréé aussi parfait qu'au départ. Quand il n'avait pas été touché par le péché, c'est là que nous allons, c'est ça que nous attendons. Nous sommes adventistes du septième jour, créatures de Dieu, qui respectons son sabbat et qui attendons son retour pour vivre avec lui dans cet univers spécial qu'il aura restauré pour nous tel qu'il a voulu à la création. Alors tout ça, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte pour faire plaisir aux enfants. Ce sont les paroles certaines et véritables de notre Dieu que nous trouvons dans la Bible. Notre nom adventiste du septième jour est donc le nom pour le présent et pour l'avenir. Et ce nom puissant qui est venu du ciel est un témoignage. Chaque fois que nous prononçons notre nom, nous témoignons. Nous témoignons de la puissance créatrice de Dieu et nous témoignons de sa promesse de son retour pour restaurer l'univers et le monde parfait tel qu'il a voulu au départ. Chaque fois que nous prononçons notre nom, nous délivrons un message. Alors, toi, jeunesse adventiste du 21e siècle, souviens-toi en toute occasion de ton nom. Jeunesse adventiste du septième jour, tu es lumière, tu es espoir, tu es aussi un témoin. Mais seulement, c'est seulement à toi de voir si tu veux mettre en pratique les instructions que tu as reçues pour faire honneur à ton nom et pour rendre gloire à Dieu. C'est à toi de voir. Et la perfection alors, nous avions parlé de perfection, vous vous en souvenez? Qui est parfait? Qui peut être parfait? Peut-être que Dieu est injuste en nous demandant d'être parfait. Est-ce que la perfection existe dans ce monde? Est-ce que la perfection existe dans notre monde? Ben vous le savez, vous m'avez encore abandonnée, je suis encore toute seule. Est-ce que la perfection existe dans notre monde à votre avis? Ok, et alors qu'est-ce que c'est qu'être parfait pour nous êtres humains? Qu'est-ce que c'est qu'être parfait? Alors je me souviens que la dernière fois, un des JM m'avait dit, quelqu'un parfait c'est quelqu'un qui sait tout et qui fait tout bien. Humainement c'est comme ça qu'on le voit. Est-ce que ça existe dans notre monde? Alors pourquoi Dieu nous demande d'être parfait? En fait, il veut nous piéger. Non. Quand on considère la vie de Enoch, Noé, Abraham, David, ce sont des hommes que Dieu a déclarés être parfaits, que Dieu a déclarés des hommes selon son cœur. Et pourtant, nous connaissons leur histoire. Il y a eu, on peut dire, des couacs dans leur histoire. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? Oui. Je me souviens aussi que quand on avait parlé, il y avait un des enfants, mais qui avait une tête, quand je lui avais dit, imagine que ton père, il boit beaucoup d'alcool, il est complètement ivre, il se déshabille totalement à la maison. Oh! Il avait été choqué. Et puis aussi, on a parlé de David, intrigue, adultère, assassinat. Pourtant, Dieu dit qu'il est un homme selon son cœur. Quand on considère leurs histoires, ils ont un point commun, tous. Ils ont marché avec Dieu. Il y a eu des erreurs, mais ils ont tenu la main de Dieu. Ils se sont relevés et ils ont continué à avancer. Alors pour nous les humains, une personne est parfaite quand elle fait tout correctement, sans défaut, quand elle respecte toutes les normes, quand elle respecte toutes les lois. Mais pour Dieu, un être est parfait lorsqu'il décide de marcher avec lui et de donner la première place au Christ dans sa vie. C'est la perfection que Dieu nous demande. Alors je voudrais qu'un Végéen nous lise le texte de Michée 6, verset 8.
On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous a demandé seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Amen.
Amen. Suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. C'est la perfection. C'est là la perfection que Dieu attend de nous. Marcher avec Dieu, donc c'est être conscient de sa présence, c'est le consulter dans toutes les occasions de notre vie, c'est tout lui dire, et nous pouvons même lui dire nos doutes et nos refus d'obéir. Dieu entend, il comprend. Et c'est à partir de notre sincérité, à partir de ce pas que nous allons faire vers lui, qu'il pourra nous aider à cheminer. Marcher avec Dieu, c'est comme un enfant qui tient la main de son père. Vous avez déjà sûrement observé cette scène, et puis il y a beaucoup de papas, de mamans présents dans la salle. Quand on marche et qu'on tient la main de son parent, un enfant, on le voit trébucher, mais il ne tombe pas. Pourquoi il ne tombe pas? Pourquoi il ne tombe pas? Parce qu'il est tenu par son père, parce qu'il est tenu par sa mère. C'est pour ça qu'il ne tombe pas. Dieu est toujours disponible pour tenir la main de tous ceux qui le désirent. Mais seulement, c'est à toi de voir si tu veux lui donner ta main. C'est à toi de voir si tu veux qu'il te tienne par la main et qu'il te conduise. C'est à toi de voir. Et puis nous avons parlé du cerveau aussi. Vous vous souvenez? 100 milliards de neurones, 10 000 milliards de connexions nerveuses, l'ordinateur super moteur de recherche qui capte tout ce qui se passe autour de nous et puis qui classe. Vous vous souvenez les deux cases dans le cerveau? Pour simplifier, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour simplifier, deux cases dans le cerveau. Une case conscient, une case inconscient. Et quand on sort, quel que soit l'endroit où on est, le cerveau il va capter tout. Ce qu'il voit, rien n'échappe à notre cerveau. Seulement, il va les classer, prioritaire, pas prioritaire. Et ce qu'il va classer comme prioritaire, c'est ce que nous lui aurons indiqué comme étant prioritaire pour nous. Nos habitudes, c'est ça qu'il va classer prioritaire. Je me souviens aussi de cet exemple. Une fois qu'on a dans son entourage quelqu'un qui attend un bébé, on dirait que la terre entière, que toutes les femmes du monde sont enceintes parce qu'on ne voit que ça. Tout simplement parce que c'est une priorité pour notre cerveau, ça fait partie de notre entourage. Donc il va nous montrer tout ce qui entoure, tout ce qui a trait, tout ce qui est en lien avec la grossesse, avec l'arrivée des bébés. Alors que quand on fait ses courses d'habitude, on passe dans le rayon puériculture et puis on ne s'en rend même pas compte. Ah mais là, cette fois, on va tout voir. Simplement parce que c'est une priorité pour nous. Grossesse, bébé, arrivée de bébé, dans notre cerveau, c'est priorité. Alors il est en alerte. Et tout ce qui va concerner l'arrivée de bébé, la grossesse, il va nous mettre tout cela en inconscient. Ce que d'habitude on n'aurait pas vu, on serait passé à côté sans voir. Notre cerveau va diriger nos regards, nos oreilles, nos sensations vers ce que nous lui avons désigné comme prioritaire pour nous. Si nous recherchons le bien et ce qui est agréable à Dieu, ce qui glorifie Dieu dans nos vies, c'est ce que notre cerveau va classer comme prioritaire. Si tout ce qui concerne Dieu est accessoire dans notre vie, un peu en satellite, et puis on tire sur la corde quand on vient le sabbat matin, et puis le reste de la semaine, on oublie ou on passe à autre chose, ou on tire sur la corde quand on fait sa prière le matin ou le soir, parfois, mais que ce n'est pas prioritaire pour nous. Donc notre cerveau va classer ça dans la case inconscient. Et tout ce qui va concerner la relation avec Dieu, pour notre cerveau, ça ne sera pas important. Et ça va toujours rester non prioritaire dans nos vies. Je voudrais maintenant qu'on lise Proverbe 4, verset 23.
Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie ne dépend.
Merci. Certains d'entre nous le connaissent, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui qui est source de la vie. Ben, j'ai bien aimé la version français courant et je crois que ça va beaucoup mieux parler aux jeunes. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Dieu qui nous a créés sait comment fonctionne notre cerveau. Donc il nous a mis en garde. Fais attention à ce que tu penses avant tout, parce que ta vie va dépendre de ce que tu penses. Ce que tu auras classé comme prioritaire, c'est ce que ton cerveau va te redonner jour après jour dans ta vie. Alors Dieu nous a donné un cerveau performant, mais alors c'est à toi de voir comment tu veux utiliser la performance que Dieu a mis dans ton cerveau. Les instructions que tu reçois, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Dans 2 Timothée 1, verset 14, toujours dans la version en français courant, garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Ces instructions que tu reçois, toi, Jia de Damarie, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. C'est à toi de voir si tu veux honorer le nom d'Adventiste du septième jour et donner gloire à Dieu. C'est encore à toi de voir si tu veux suivre le chemin que Dieu te montre et si tu veux mettre ta main dans la sienne pour avancer. C'est à toi de voir ce que tu vas indiquer comme priorité à ton cerveau pour donner la direction de ta vie. C'est juste à toi de voir. Amen.